One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go away.
Nos heures est enrouée ce soir.
Eh oui, les bébés dinosaures sont avec vous ce soir. Ils sont en train de réarranger le studio avec leurs grosses pattes et de roucouler, puisque les dinosaures roucoulent, c'est la leçon de biologie de chaque dimanche. Alors, la pédagogie repose sur la répétition, donc ça fait 250 fois qu'on l'explique. Mais bon, à part ça, les bébés dinosaures, c'est Canal Sud, c'est 92.2 MHz, c'est de 21h30 à 23h tous les dimanches, et ça sera du rock des années 70, et peut-être la technique qui marche pas.
Ouais, j'ai ces différents casques, tu vois, là, pour mieux t'entendre roucouler.
Les casques sont montés. Ça va ?
Je sais pas. Tu pourras monter un petit poil, là, je pense.
Voilà. Non, il y a une petite plume.
Voilà.
Une plume
de plus, là, même. Ça.
Allez, comme ça. Encore ? Et non, il n'y a toujours rien ?
Ouais, là, ça. On va dire que ça va aller.
Bon. Tu m'inquiètes. Bon, eh ben écoute, en attendant, comme on se fait une rubrique Rolling Stones tous les dimanches, de Halloween 2023 jusqu'à Halloween 2024, eh ben écoute, pour démarrer, on va commencer avec les Rolling Stones dans la simplicité, puisque je vais démarrer avec Start Me Up.
Ah, elle est bien bonne.
We'll be right back.
Alors vous me direz, Start Me Up, c'est sorti sur l'album Tattoo You en 1981. Qu'est-ce que c'est que ça? On devait faire les Stones dans les années 70. Mais bon, c'est quand même 70s quelque part. Puisque comme vous le savez bien, l'album Tattoo You a été fait à partir des chutes des différents albums des Stones depuis pratiquement, bon, pas Exile on Main Street, mais enfin It's Only Rock and Roll, je crois. Donc il y a quelques morceaux où il y a des brèves apparitions de Mick Taylor, par exemple. Parce qu'ils ont repris certaines des bandes qu'ils avaient en stock, c'est leur producteur qui a fait ça. Start Me Up, en l'occurrence, c'était un morceau qu'ils avaient fait en reggae au début, ou un truc comme ça, et qu'ils devaient travailler à l'époque des sessions de, alors je ne sais plus si c'était Some Girls ou Emotional Rescue, fin des années 70, hein, au départ. Mmh. Et puis, c'est devenu un énorme tube, en fait, dans cette version rockifiée de 1981.
Eh bien, on va s'écouter une reprise des Stones. Et ça va être un peu le début d'une petite série de bizarreries que j'ai amenées là. Je sais pas si je les passerai toutes, ça ferait peut-être trop d'un seul coup.
Attends, on passe jamais de morceaux bizarres. Le début de nos heures, on est quand même une émission mainstream et assez cadrée, non? J'ai raté une marche là.
Ça fait bien une trentaine d'années qu'on est parti sur des voies différentes, je dirais.
Ah bon?
Mais bon. Bah voilà, tu loupes une émission, puis ça y est, là, tu as oublié tout le concept. Là, c'est une reprise du grand tube des Stones, le grand tube emblématique des Stones, mais 60s, donc I Can't Get No Satisfaction. Souvent repris, hein, bien sûr. Mais là, c'est repris par les Residents.
Oula.
Ah. Oui, il faut rappeler que c'est un groupe qui a démarré dans les années 70, dont le premier album date de 74. Mm. Donc en plein dans notre période, ouais. Et je crois qu'on ne les a jamais passés.
Oui, parce qu'on identifie plutôt une espèce d'époque punk, post-punk, new wave, les Residents, avec leur côté tout à fait bizarre.
Oui.
C'est eux qui avaient fait Third Reich Rock'n'Roll.
Oui, Third Reich and Roll, je crois.
Third Reich and Roll.
Et oui, bon, en fait, c'est un groupe que tout le monde connaît de vue. En fait, tous ceux qui s'intéressent à la musique pop ou rock connaissent ces yeux énormes avec un chapeau de forme dessus, ouais. Et puis un costard. Ouais. Un tuxedo, d'un habit très 19e siècle. C'est leur image, enfin c'est leur marque de fabrique, une sorte de logo. Mais ça, tout le monde le connaît, sans forcément avoir entendu les Residents, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident quand même, hein, d'écouter l'album 74 en entier. Bon, il faut un peu s'accrocher de temps en temps. Mais il y a des choses intéressantes. Alors après, on se bornera... à leurs œuvres 70s. Ils ont continué avec des line-up mouvants. Il y a un mec, semble-t-il, qui est resté jusqu'au bout. Et ils étaient encore actifs en 2020.
Paul Westerberg, qui était le leader du truc, là.
Alors, c'est un autre nom que j'ai vu, que j'ai oublié. Parce que tu sais qu'ils gardaient leur identité secrète, bien sûr. Ils sont toujours masqués, ils apparaissent jamais. Mais il y en a un qui, peu de temps avant sa mort, s'est démasqué en quelque sorte et a dit, voilà, c'est moi qui ai fait partie des Residents dès le début et j'ai composé une bonne partie des morceaux. J'ai oublié son nom. Enfin, composé, c'est beaucoup dire aussi, parce que c'était souvent des espèces de collages, de bricolages, de trucs très avant-gardistes hein, quand même. Et alors, la reprise de I Can't Get No Satisfaction, bon, eh ben, vous allez voir, c'est quand même assez particulier. Et au niveau des vocaux, ça préfigure quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui. Hein.
Ah ouais. Et attends, est-ce que les Flying Lizards l'ont pas fait, Satisfaction aussi?
Non,
c'est pas évident.
Je crois pas. Divo l'a fait.
Divo, bien sûr.
Bien sûr.
La reprise de Divo est relativement. Enfin, elle est déformée, mais.
Elle est à la Divo, mais ça reste encore. Là, c'est un peu plus déformé, effectivement. Donc, c'était un 45 tours de 76, les Residents.
We'll be right back.
Eh bien, oui. Ah, oui, dans le cadre des erreurs habituelles, tout à l'heure, je confondais les replacements et les residents. Bon, ok. Bon.
Ah, c'est pas tout à fait le même créneau,
non,
oui.
C'est pas tout à fait pareil.
Ouais. Voilà, je pense qu'on a perdu un bon million d'auditeurs, là, sur le coup.
Bah, écoute, il y avait le risque de satisfaction dedans. Ouais, il y avait ça. Mais il y avait autre chose aussi.
C'est ça.
Comme les dans Tonton Flinger.
Il y avait quelque chose en plus, quoi. Oui, et puis c'est de la vraie, quoi.
Mais je connais pas de Polonaises qui prennent ça au petit déjeuner. Hein.
Oh, si, elles en sont capables. Attends, un petit goût bon. De torboyau. Mais les vocaux, hein, ça ne déparait pas dans un groupe de métal d'aujourd'hui, quoi. Mmh. Les plus. Ouais. Ceux qui font les gros méchants. Là.
Mmh. Non, mais attends, il n'était pas au niveau de. Tu vois.
Ils n'en étaient pas loin.
Les groupes de métal dont on croirait qu'ils ont appris à chanter en Mongolie extérieure.
Oh, le mongol est une langue très, très mélodieuse, en fait. Hein.
Oui, mais c'est là qu'ils ont, tu sais, des gens qui font du chant de gorge. Mmh. Ils sont capables de faire deux notes à la fois.
Ah oui, non, c'est nous, même avec toutes nos cordes vocales, on a du mal. Hein.
Ah oui, oui, on n'en fait aucune.
Voilà. Bon, écoute, cela dit, de tout ce que j'ai écouté des Residents, car vous y aurez droit encore un petit peu dans les semaines qui viennent, c'est celui-ci qui est le morceau le plus normal, on va dire.
Le plus accessible.
Absolument.
Eh oui, bien. Écoute, on va rester dans le domaine de la satisfaction, mais avec un groupe beaucoup moins connu et beaucoup plus bourrin, finalement, qui était Ernie Joseph and the Big Brother. Alors attention, c'est pas le Big Brother de... Holding Company de Janis Joplin. C'était le groupe des frères Orozco, je crois qu'ils s'appelaient. Mais ils avaient tous des pseudonymes rigolos, dont l'un d'entre eux qui s'appelait Joseph, sans doute, ou Ernie, et qui se faisait appeler Ernie Joseph. Et donc, on va s'écouter un morceau d'eux qui s'appelle Satisfied Woman.
Cause I wanna show you what it's at. Well, I know your brother Eli, he said you like to pop those pills. Oh, your brother Eli told me, he said you like to pop those pills. You gotta stay away from all that kind of junk, cause I gotta let you know what's happening. Hey!
Big Brother, c'était vers la fin des années 60 ce truc, avec Ernie Joseph, Corey Colt, Brian Faith. Alors leur groupe ensuite s'est appelé brièvement le Brian Faith Band, mais c'était un des frères, pareil, ils changeaient de leader apparent. On trouve ça sur un album qui s'appelle Southeast Tour. Alors tu te dis c'est un album live. Non, c'est pas live et c'est pas un album non plus, parce qu'en fait c'est une compile de choses, mais de choses qui n'ont pas été publiées ailleurs ou qui sont des morceaux anciens du groupe d'avant. Enfin, voilà, bon, ça s'écoute. Big Brother, donc, mais pas celui du Holding Company.
Ouais, on a entendu la différence quand même. Un petit John Lennon là. Je sais pas, ça me reprend là de réécouter les albums solo de John Lennon. Et là, le premier, Plastic Ono Band, enfin, je sais même pas s'il a un titre vraiment, que j'avais pas réécouté depuis longtemps, qui est quand même pas mal. Hein. Enfin, c'est là-dessus qu'il y a I Found Out, Well, 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 des morceaux très énervés. Et des Mother, des morceaux plus émouvants. Et un que je pense qu'on n'a jamais passé dans l'émission, Remember. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Alors c'est un morceau.
I don't remember.
Voilà. Et ben, je vous le repasse pour vous le rappeler. Un morceau où il est accompagné par Klaus Voormann à la basse, comme sur presque tous les morceaux de ce disque, et par Ringo Starr à la batterie. Et un petit final. Le morceau était prévu pour durer 7 ou 8 minutes avec les dernières lignes qu'il dit, enfin les dernières paroles qu'il dit dans la chanson devaient se répéter. Puis finalement, il a choisi de conclure autrement. Alors vous verrez comment. Et puis on reviendra sur le The 5th of November, le 5 novembre. De quelle date s'agit-il? Toi, tu, je suis sûr que ça te dit quelque chose. Le 5 novembre.
Non,
c'est plus ancien que ça, mais c'est, c'est lié à une fête. Typiquement britannique, on va dire.
Ah, c'est le Guy Fawkes.
Et voilà. Ouais, ouais. D'où ce qui explique le final du morceau. Mm-hmm. Voilà, Remember, donc John Lennon sur son premier album solo en 70.
Hero!
dit Guy Fawkes a enfin réussi à faire sauter le Parlement. C'était le 5 novembre 1605. Guy Fawkes a été arrêté. C'était un rebelle catholique, je crois, qui voulait assassiner le roi James Ier et tout le Parlement avec. Et il a été chopé au moment où il assemblait les explosifs, enfin, quelque chose comme ça. Et voilà. Et donc là, John Lennon a trouvé ça marrant de faire exploser le Parlement de manière imaginaire, bien sûr.
Et puis, effectivement, en commémoration de ça, le 5 novembre, il me semble qu'on fait des feux d'artifice,
c'est ça,
des,
voilà.
Des grands bûchers.
C'est curieux quand même hein, d'avoir choisi un attentat raté, de le commémorer.
C'est parce qu'ils l'ont déjoué, voilà.
Oui, oui,
on a déjoué l'attentat.
C'est peut-être ça, oui.
Bon, allez, nous, on va faire exploser les plus gros trucs avec les Blues Creation. Tu te rappelles ce groupe japonais
Oula, oui.
Japonais un peu cinglé, mais ça, c'est un pléonasme. Et qui faisait du blues rock complètement énervé au début des années 70. Et donc, ils ont ce premier album qui s'appelle Demon and Eleven Children. Et on ne sait pas pourquoi il s'appelle comme ça. Les membres du groupe eux-mêmes ne se souviennent pas pourquoi il s'appelle comme ça.
Et il parlait très mal anglais, donc
voilà.
Ils ont dû trouver que ouais, ça sonnait
contre,
bien.
Le titre du morceau, c'est qu'on va passer là, c'est Atomic Bombs Away, ce qui peut signifier allez-y avec les bombes atomiques.
De la part des japonais, quand même,
ça peut vouloir dire
c'est pas du très bien passé dans le pays.
Je sais pas. L'expression quelque chose away en anglais, c'est ça peut vouloir dire envoyer tout. Mais bon,
moi,
voilà.
Je pense que c'était plutôt la deuxième interprétation.
Blues Creation.
Ah bon.
Yeah.
Et c'était donc Blues Creation, avec plein d'explosions.
Et ouais, ça faisait un parfait enchaînement avec l'explosion du Parlement de John Lennon.
Et ouais.
Eh bien, on va se calmer un peu avec Peter Ivers. Alors voilà, un autre personnage assez mystérieux et étonnant, dont j'ai entendu parler pour la première fois dans la BD Underground, dont je vous parle depuis quelque temps, là. Alors lui, sa carrière est assez curieuse, disons, et sa mort encore plus. Alors, il s'est lancé dans la musique très jeune, il a voulu faire de la musique. Et il s'est lancé dans la musique assez tôt, aux grandes dames de son père qui voulait qu'il fasse des études. Il avait fait des tests à Harvard qui auraient décelé une espèce de génie. Mais lui, il voulait pas faire d'études, il voulait faire de la musique. Alors il a appris à jouer de l'harmonica avec un harmoniciste de blues, un noir dont j'ai oublié le nom, qui accompagnait des grands musiciens de blues. Il est devenu un virtuose de l'harmonica. Il a voulu faire du karaté, il est devenu ceinture noire, il a voulu faire du yoga, c'est devenu un maître du yoga, enfin bon, et il a fait un premier album, il jouait dans des petits clubs et tout, il se fait repérer comme ça, quoi. Il a fait un premier album, disons, de blues jazz expérimental, un peu entre Captain Beefheart et Sun Ra, si tu vois ce que je veux dire, où tu as des parties d'harmonica incroyables. Je vous en passerai bientôt, ne vous inquiétez pas. Ça s'appelait Night of the Blue Communion, c'était en 69. Et puis il a enregistré un deuxième album un peu dans la même veine, mais là je crois que le label a dit potentiel commercial nul. Hop, ils ont gardé les bandes, c'est sorti des décennies plus tard. Alors il a un peu bidouillé pendant quelques années, et puis il a fini par trouver un autre contrat et il a sorti un premier album. Solo, enfin un deuxième album qui s'appelait Terminal Love. Alors là, c'est beaucoup plus pop, c'était calmé un peu. Mais cet album a été classé par le Guardian, tout à fait respectable, comme faisant partie des 101 albums les plus étranges qui aient jamais été sortis. Quelqu'un a dit aussi de ce disque jamais j'ai entendu un truc aussi bizarre sur un gros label. Succès assez mitigé. Il en fera un autre en 76. Succès assez mitigé aussi. Il sortira quelques 45 tours par-ci par-là. Et puis il va faire de la télé après. De la télé où il était l'hôte d'une espèce de show, de show qui accueillait des gros punk et hardcore de la Californie. Il était du côté d'Hollywood. Au début des années 80, ça c'était. Donc. C'est assez bizarre parce que sa musique n'a pas trop grand chose à voir avec cette scène là, mais bon. Et puis c'était un pote de plein de gars à Hollywood. Il connaissait Coppola, il était copain avec Starsky, Paul Michael Glazer, il était copain avec Harold Ramis, ce mec qui a fait quelques films qui marchaient bien à cette époque là et en 83, alors il vivait dans un squat, mais vraiment dans un quartier totalement pourri et très craignos, quoi, visiblement. Et on l'a retrouvé assassiné à coups de marteau en 1983. Alors, son appart est resté ouvert pendant des heures. Les flics n'ont pas sécurisé la scène de crime, etc. Tout le monde est passé, ses potes sont passés. Il y a même un mec qui a récupéré des affaires dans sa piole. Il y a des disques qui ont disparu. Enfin, pendant des heures, tout le monde s'est promené. Les flics sont restés... ont enquêté vaguement, mais bon, visiblement, ils n'ont trouvé aucune piste. Et puis, de toute façon, la scène était trop polluée pour faire quoi que ce soit. Il y avait des empreintes partout. Sa compagne de l'époque a engagé un détective privé qui n'a rien trouvé. Alors, il y a eu plusieurs suspects. Une espèce de producteur véreux et bizarroïde qui traînait autour de lui. Un musicien de la scène hardcore aussi. Là. Mais on ne sait toujours pas aujourd'hui qui a assassiné Peter Ivers en 1983. C'est un cold case qui ne sera sans doute jamais résolu. Et il laisse donc au moins deux des albums les plus bizarres qui aient jamais existé. On va s'écouter l'extrait du deuxième, Terminal Love, donc en 74.
J'ai jamais rencontré Rocky Erickson.
C'était...
I don't need a bloody hammer.
Ah, c'est le pauvre, si c'est le cas, il a pris plein la tronche. Hein.
C'est le cas de dire.
Donc 83... on va s'écouter voilà, son album pop. Hein, on va démarrer calmement. Mais bon, un peu bizarre quand même. Hein. Le morceau s'appelle Alpha Centauri. Donc, c'était donc en 74 et c'était tiré de l'album Terminal Love. Wow. Peter Ivers.
Hey!
bien, après Alpha du Centaure, nous avons la planète Mars, puisque ce qu'on vient d'écouter, c'était Red Eyes, un morceau de l'unique album des Spiders from Mars, c'est-à-dire les Spiders from Mars sans David Bowie. Alors, qu'est-ce que c'est les Spiders from Mars sans David Bowie et sans Mick Ronson?
Et sans Mick Ronson, oui.
Ouais, c'est peu de choses, quelque part.
C'est la rythmique, quoi.
Voilà, c'était Woody Woodmansey à la batterie et Trevor Boulder à la basse. Plus un guitariste qui s'appelle Dave Black et un chanteur, Monsieur Pete McDonald, quelque chose comme ça. Bref, personne de très connu. Et en plus, ça s'est fait en 76, donc quelques temps après que Bowie ait congédié son groupe, en fait. En fait, Bowie avait continué de travailler un peu avec Ronson, si je me souviens bien, mais pas les autres.
Bon, oui, il intervient sur certains des solos suivants, ouais.
Mais en 76, ils ont fait une reformation, ils ont fait un disque, donc qui s'appelle Spiders from Mars, qui a la couverture toute rouge avec une grosse araignée, et qui, ben disons que c'était peut-être le morceau le plus marquant du coup. Ça manquait un petit peu de créativité. C'est pas désagréable, mais ça n'a pas laissé une grande trace, hélas. Spiders from Mars, quand même.
Voilà. Alors là, on s'est écouté un morceau un peu plus marquant, mais on revient sur Terre, mais alors, sur la face sombre de...
Ah ouais. Ah ben, je voulais le passer autre jour, celui-là, quand Misty est venu, parce que c'est le morceau le plus marquant de Townes Van Zandt.
C'est son plus connu, oui.
Voilà. Qui s'appelle, joyeusement...
Waiting Room to Die. On a déjà écouté une version dans les Bébés Dino, il y a un sacré paquet d'années.
Ouais.
Il l'a enregistré sur son premier album, c'est même la première chanson qu'il a écrite.
Il
a réenregistré sur son troisième album, qui n'avait pas de titre, et qui est sorti en 69. Et c'est quand même un gamin très respecté, enfin, c'est un nom très, très, très respecté.
Ah oui, c'est...
Mais sa carrière a été compliquée.
Oui, ben, faut dire qu'il était alcoolique et adonné aux drogues au dernier degré, quoi.
Voilà.
Incroyable.
Dépressif, joueur compulsif. Il vivait dans une caravane. Après, il avait une espèce de chalet sans eau, sans électricité.
Alors qu'il venait d'une famille très riche.
Oui. Mmh. Ben, c'était un peu le rebelle. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, c'est une figure de la outlaw country. Il y a eu un film sur la Outlaw Country dans les années 70, et Townes Van Zandt joue ce morceau, et ça, on s'écoutera cette version aussi. Le personnage dont il raconte l'histoire, évidemment, assez déprimante, ben, il ressemble beaucoup, hein, parce qu'il parle de la codéine, il était accro à la codéine. Townes Van Zandt, son personnage aussi, il a l'air d'être alcoolique, comme l'était Townes Van Zandt. Il est joueur aussi, il dépense son fric aux cartes et aux dés, comme le faisait Townes Van Zandt. Et puis, il est légèrement dépressif, comme l'était aussi Townes Van Zandt. Voilà. Donc, mais quand même, j'ai réécouté ces deux premiers albums, ces trois premiers albums. Ouh, c'est quand même prenant. Hein.
Oui, c'est... Disons que peut-être pas les écouter tous à la suite, parce que après...
Après, c'est pas
enfin, du moins, ne va pas sur ton balcon si tu vis au cinquième étage, parce que...
C'est pas très joyeux. On se les mettra par petites doses.
Ouais.
Mais celui-là est vraiment très, très émouvant, quand même.
Il faudra réinviter Misty pour qu'elle nous raconte Townes Van Zandt, parce qu'elle l'a connu aussi.
Je pense qu'il y a sûrement des anecdotes à raconter, effectivement.
Ouais, ça devait être quelque chose. Et c'est quand même lui qui a sorti, alors je sais pas si le titre était de lui, de son vivant, un album qui s'appelait The Late Great Townes Van Zandt.
Ça c'était en 72, un truc comme ça.
Feu Townes Van Zandt, le regretté Townes Van Zandt. Bon, voilà. Alors.
Donc Waiting Round to Die, la deuxième version qu'il avait enregistrée en 69.
Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just a waiting round to die. All one time, friends, I had a ma, even had a pa.
Well, he beat her with a belt once, 'cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Well, it's easier than just waiting around to die. Came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped a train. Seemed easier than just a waiting around to die. Then a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother did we fly. But the posse caught up with me and drug me back to Muskogee. And it's 2 long years of waiting around to die. Oh, but now I'm out of prison. I got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. Oh, his name's Codeine. He's the nicest thing I've seen. Well, together we're gonna wait around and die. Yeah, together we're gonna wait around and die.
Eh bien, qu'est-ce que tu racontes? Il y a une fin heureuse. Il a rencontré sa petite copine Caroline. Non, Codeine. Et avec elle, il va attendre de mourir.
Ah oui, la vie la plus douce qu'il ait jamais eue. Voilà, mais je pense que on a perdu déjà 1 million d'auditeurs qui est Residence. Et là, il y a un autre 1 million qui sont allés se suicider après d'avoir écouté ce merveilleux morceau, quand même, de temps de vendante.
On a fait monter en flèche les ventes de barbiturique.
Désolé. Enfin, bon. Ça fout le chair de poule quand même.
Ouais, bah, oui, non, ouais. Tom Vincent, quelqu'un. C'était quelqu'un et je crois que j'ai tous ses albums. Non, il m'en manque peut-être un ou deux, mais enfin, l'autre jour, je me les étais ressortis parce que c'était. Parce qu'on avait invité Misty et que c'était un type qui passait voir Misty quand il venait à Memphis, d'après ce qu'elle nous raconte. Il faut qu'on lui fasse re-raconter. Allez, la prochaine dimanche prochain, je sais pas si on aura Misty, mais j'amènerai son nouvel album qui est sorti là avec l'éponge.
Dimanche prochain, je serai pas là.
C'est fantastique, bah, justement. J'aurai la place de passer plein de chansons.
Eh bah d'accord.
Même. Alors bah écoute, comme on était parmi les parieurs compulsifs, voici la chanson de rock la plus célèbre sur les parieurs compulsifs.
Alors là, il est en train de mimer, mais on dirait que tu te prépares pour les Jeux Olympiques, là.
C'est suffisamment dur, les auditeurs comprendront avant toi.
Blue jeans and my father. tell your children not to do what I have done. That's to spend your life in sin and misery in the house of the
Sylvain, sais-tu quel est le surnom des habitants de Newcastle, en Angleterre, dans le nord-est de l'Angleterre? Newcastle,
Jordi, bien sûr.
Jordi, eh oui. Et c'était donc le groupe Jordi qui avait pris ce nom-là parce que c'était un groupe de Newcastle et que le nom était encore libre. Donc voilà, en 74, je crois, un morceau qui est notre 45 tours pourri de ce soir, même si je crois qu'il doit figurer aussi sur leur album Don't Be Fooled by the Name. Et avec. Avec au chant, bien sûr, vous l'avez tous reconnu, ben non, peut-être pas.
Ben, c'était pas forcément évident, sur voilà. Ce morceau-là, oui.
Brian Johnson, qui, dans la première carrière, était chanteur de Jordi, avant qu'il soit débauché par AC/DC. Qu'est-ce que tu veux, le rock, c'est une musique de débauché.
Oui, et puis, bon. Enfin, je pense que s'ils avaient pu garder Bon Scott, ils l'auraient fait. Hein.
Ah ben oui, bah, ils n'avaient pas le choix. Là,
ils n'ont pas eu le choix, malheureusement. Et AC/DC n'a plus jamais été pareil, hein. Je suis assez effrayé par les fans des CDC d'aujourd'hui, tu sais, qui ne connaissent quasiment pas la période Bon Scott, en fait.
Mmh. Ben ouais, ouais.
C'est quand même dingue.
Écoute, mes filles connaissent les CDC, mais elles connaissent le morceau, comment il s'appelle ?
Thunderstruck.
Thunderstruck, c'est
ouais,
ça.
Ouais, voilà, c'est ça, le tube des CDC. Mmh. Bon, alors, putain, quand même, les gars. Voilà, enfin, bon, bref. Petite rubrique Digit, là, tiens, ça va nous nettoyer les oreilles, là.
Rolling stone. semaine, passer deux fois John Lennon, voire trois fois parfois dans chaque émission. Des chances de faire un spécial John Lennon l'année prochaine. Possible.
Je crois qu'on aura tout épuisé déjà. C'est un peu la rubrique couplée, quoi. Rolling Stone, John Lennon.
Couplet, elle tourne un peu au refrain là.
Bon, on n'a pas encore épuisé Walls and Bridges. Bon, alors attention, ils étaient en concert il y a quoi, 15 jours, 3 semaines, au Ravelin, avec les Movie Star Junkies. La semaine dernière, on s'écoutait les Movie Star Junkies dans la rubrique Dig It, puisque c'était quand même un de nos groupes fétiches. Normalement c'est là-haut. Je sais pas si je l'ai calé par contre. Peut-être c'est le 6.
Forcément pas puisque.
C'est ah bah oui, c'était la rubrique. Ouais. C'est le 6. Et voilà. Et donc c'était les Magnetics. Alors attention, les Magnetics au carré. Les Magnetics ont longtemps été un groupe fétiche de Dig It, bien sûr. Mais ils étaient deux à cette époque-là, c'était un duo. Lucio Vibrato et sa compagne, mais là apparemment ils sont séparés et donc il y a une nouvelle version des Magnetics, c'est les Magnetics au carré, puisque maintenant ils sont 4. Et en fait, c'est les Destination Lonely qui ont rejoint Lucio Vibrato. Donc il y a Lou Spider, il y a Vlad à la batterie et Marco Fatal à la guitare. Et Lucio à la guitare et aux vocaux. Et ils ont fait ce concert, cette première partie de Movie Star Junkie, je peux te dire que ça déboîtait grave. Et que certains en ont perdu des bouts de tympan. Hein. Ça faisait bien longtemps que je n'étais pas été obligé de mettre des bouchons en concert. Alors là, j'étais obligé. Et Spider, à la fin, me dit « Mais alors, c'est juste que c'est petit, le Ravelin, et que t'es trop vieux. » Ah ouais, bah ouais, bah, ça doit être ça. Et donc, on va s'écouter les Magnetics au Ravelin. C'était donc il y a 2-3 semaines. Un morceau dont j'ignore encore le titre. Je pense pas qu'ils aient sorti officiellement quoi que ce soit pour l'instant, mais il y a déjà au moins deux vidéos du Ravelin qui traînent sur internet, donc vous pourrez aller les voir. Et donc, live dans votre radio, les Magnetics au carré, au Ravelin, il y a quelques semaines.
Félix Soucaré, donc. Voilà. En concert, ça va être le 27 avril
quelque chose comme ça.
Le 27,
oui,
je pense. Ouais.
Ça fait quoi, ça fait...
Au Ravelin. Bon,
ça fait quoi, deux semaines.
Un bar qu'on nous recommandons toujours.
Ah oui, et puis alors là, c'était bien plein. Grosse ambiance. Et deux bons groupes. Et on en a pris plein les feuilles.
Eh bien, écoute, ben voilà, un morceau... comme les jeux sur la soupe, mais ils étaient longs. C'était 72, hein, avec Jean-Pierre Castelin, le premier album de Jean-Pierre Castelin, illustré par d'ailleurs une magnifique BD de 4 pages en quadricromie, signée par Verne, Verne, V-E-R-N, qui était un dessinateur un peu psychédélique, qui publiait dans Pilote à l'époque. Et qui est 4 pages, sont 4 pages consacrées à une espèce d'apologie de... La géographie presque de Jean-Pierre Castelin, qui a passé un an à ne manger que des pommes pour avoir le fric pour faire sa musique. Bon, voilà. Enfin, c'est ce qu'il dit.
Ouais.
Voilà. Et qui a fini par avoir un contrat avec Warner, mais qui n'a jamais vraiment eu beaucoup de succès. Ce qui est assez curieux, parce que les disques n'étaient pas mauvais du tout. Et donc, voici un morceau que je ne sais pas comment enchaîner, mais qui s'appelle « La négresse noire ».
Bon.
un titre pour le moins pléonastique, mais voilà, Jean-Pierre Castelin.
Et il m'arrive une sale histoire qui me laisse comme un con. J'ai laissé la négresse noire qui était mon amphitryon. Elle avait un œil de verre et des lèvres à plateau. Elle aurait pu être ma mère, elle me rendait fou marteau. Elle était riche comme Crésus. Elle était noire comme du charbon. Elle aimait la chanson typique et la cuisine exotique. Elle était le mot magique de mes rêves érotiques. Mon élixir aphrodisiaque tous les jours de la semaine. Mon hydromel paradisiaque, mon kiff, mon hache, mon pollen. Elle était riche comme Crésus. Elle était noire comme du charbon.
Tiré de l'album, du premier album de Jean-Pierre Castelin en 1972. Les paroles, des paroles écrivées à monsieur Claude Azam. Je dis Claude, mais je me trompe, peut-être c'est C. Azam. C. Azam, je ne sais pas quel était son prénom, mais qui a signé les paroles de ce morceau, tandis que la musique est de Castelin. Un petit côté jazz excité brésilien, matinée de rock. assez rigolo. Et alors, il y a le personnel du disque derrière donc, cet album, donc, qui s'appelle, je vous le rappelle, De mes yeux vus. Titre pas mal. Et donc, batterie, percussion, Jean-Pierre Castelin et A. Clarel. Ok, d'accord. Guitare basse, Jean-Pierre Castelin. Guitare électrique, Jean-Pierre Castelin. Guitare 12 cordes, Jean-Pierre Castelin. Guitare acoustique, Jean-Pierre Castelin. Piano et orgue, Jean-Pierre Castelin. Arrangement, Jean-Pierre Castelin. Accordéon, R. Romanelli. C'est un peu la seule exception. Avec le batteur.
C'est un pseudonyme, en fait, voilà, qu'il a pris pour l'accordéon.
donc, un disque qu'il a fait presque tout seul. Et qui est tout à fait écoutable. On s'en écoutera d'autres extraits.
Eh bien, il est temps de s'écouter quelqu'un qui aimait beaucoup aussi la musique noire, le jazz, le blues. Colette Magnier. Ah. Je crois qu'on ne l'a jamais passé non plus. Mmh. Une carrière qui a démarré en 63 et qui s'est poursuivie dans les années 70 jusqu'en 89. Elle a enregistré. Elle vivait à la fin de sa vie du côté du Tarn-et-Garonne. Et il semblerait qu'elle soit morte à Villefranche-Jouhergues dans l'Aveyron, figure-toi.
En 97. Qui est dans l'Aveyron, par contre.
Comment ?
Qui est dans l'Aveyron.
Oui, en Aveyron, oui. Mm. Mais elle est enterrée dans le Tarn-et-Garonne, dans un petit bled. Et alors, le monde avait dit d'elle que, au niveau des paroles, c'était quand même. Il fallait être le plus endurci des insoumis pour les supporter. Parce que c'était de la très, très engagée. Et sans trop de nuances, hein, effectivement. Mais ses performances vocales sont quand même étonnantes, quoi. Elle a secoué la chanson française de ce côté-là. Bon, elle avait ce côté anard, un peu à la Léo Ferré, là, mais au niveau de la façon dont elle chantait, il y a quand même quelque chose de très étonnant, je trouve. On va s'écouter un morceau de 72 de l'album Répression. Le morceau s'appelle aussi Répression. Et il a un côté assez barré et hypnotique qui me plaît bien. C'est une note des bizarreries que je vous ai prévue pour ce soir. Et c'est aussi une figure qui apparaît dans la BD Underground.
Ah, j'allais te demander. Bon.
Eh oui. Allez, accrochez-vous.
Alors, on garde son sang-froid ? Aïe, pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Répression, répression, répression. Vous êtes qu'un passant ! Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Majorité silencieuse, pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression, c'est pas un homme comptable, a refusé le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son pote, nous, c'est les trottoirs. M'ennuie. Répression, répression, répression. Liberté de la presse, quelle ivresse! On couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro sur les grands boulevards. Font rage de fesses et seins roses bonbons. Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, encombrer les marchés. Faut laisser circuler la majorité. Répression, répression, répression. Clac ! Les vieilles de questions posées par leur canard préféré. Salut les cops. 1. Manger de la soupe fait grandir. Vrai ou faux? Bla 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 bla. Vite. La masturbation rend fou. Oh. Vrai ou faux? Grisou chez les mineurs, ils sont en danger. Arakiririkira, 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 le dernier. Eden, Eden, Eden. Ici, on est libre, on n'est pas chez les colonels. On peut encore avoir un parterre de fleurs devant sa maison, ou s'y flotter n'importe quelle connerie de la télévision. On nous mettra pas en prison. Ah mais non, ah mais non. Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on? C'est vrai, faut faire le procès de la vitesse pour bombarder le Nord-Vietnam en deux temps trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Si ça continue comme ça, un jour on verra peut-être les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, où va-t-on, où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on, 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 ira-t-on?
Chose quand même.
Ouais, c'est long.
Colette Magny, répression en 1972.
Écoute, un peu plus tard, on a Robert Charlebois avec un 45 tours qui était, je me souviens à l'époque, un peu une surprise parce qu'il le chantait en anglais, The Greatest Idea. Mais on va s'écouter la face B qui s'appelle, qui doit être en anglais aussi peut-être, qui s'appelle Halloween in Hollywood. Robert Charlebois, donc tu sais qui de temps en temps ne dédaignait pas faire un peu de rock.
Halloween in Hollywood for Mickey Mouse and Clint Eastwood, a rockin' and a rollin' on James Dean's hood to the sound of Johnny B. Goode. Old Rin-Tin-Tin and Big John Wayne are strolling down on Primrose Lane while Elvis Presley croons a strain from the caboose of a train. Sinatra, Crosby, and Mae West are square dancing in Holly West while Greta Garbo takes a rest and Charlie Chaplin does his best. Laurel and Hardy and Costello tiptoe around Valentino.
trick or treat. They all follow the stardust of Marilyn Monroe. Dracula is kissing Ben-Hur. Charles Boyer covers them with fur. And Brando with a Burton Taylor looks a healthpiece lunch in Big Sur. Sorry about those I forgot. Mickey Rooney, Spencer Tracy, and Bud Abbott. Give my regards to Cara Lombard and Bogart. Say hello to Clara Bow and Jean Harlow. All the Tarzans and Woody Allen are going crazy for Wonder Woman. But it's no use, she's faster than the news and got married to Howard Hughes. I saw them all in my crystal ball, like angels in a mirror's hall. Coming soon on your favorite moon with the last spooky cartoon starring Clark Gable, Betty Davis, Gary Cooper, the Marx Brothers, the Barrymore, and more. I met the Lone Ranger in the sky, riding a white mobile gas horse. He probably joined the Air Force. When we met, I was very high. He told me Hollywood would die and be replaced by Holly Steele. The biggest highway in the sky. Can you imagine?
Halloween in Hollywood, Robert Charlebois, Halloween, on aime bien nous. Enfin, on n'aime pas se déguiser, hein, mais on aime bien les blagues sarcastiques et l'horreur fantaisiste. Bien, Sylvain nous a dit au revoir, il nous dit au revoir pour deux semaines, parce qu'il ne sera pas là la semaine prochaine, mais j'assurerai, je tiendrai la barre du navire. Et la semaine d'après, ben, c'est Sylvain qui me remplace, donc voilà. Magny court. Tiens, n'oublie pas ta clé quand même. Que disais-je ? Donc le 12 mai, Baby Dinosaur Sylvain, le 19 mai, Baby Dinosaur Tommy Boy. La venue de Deep Purple à Toulouse se rapproche, donc vous pouvez craindre le pire. Et oui, le 17 juin au Zénith. En attendant, ben, on a une rubrique à passer. Je ne vais pas priver Sylvain de son jingle préféré quand même. Il faut qu'il l'écoute un peu. Et donc au menu de la rubrique fromage de chèvre ce soir, bonjour Frémion, à bientôt Frémion, on a David McLean. Il y a beaucoup de McLean, alors je vais pas me tromper. Non, Don McLean, qu'est-ce que je raconte, putain. Et heureusement que j'ai pas dit Brian McLean, parce que c'est encore quelqu'un d'autre. Non, Don McLean, qui a été justement célèbre au début des années 70, avec sa chanson Goodbye Mr. American Pie, alors je pense qu'elle s'appelle Mr. American Pie tout court, qui est une chanson très mélancolique sur la mort de Buddy Holly et un peu la fin de l'innocence qui a totalement marqué son époque, qui était ultra longue et qui passait quand même à la radio énormément. et qui est un truc que les gens décodent interminablement parce qu'ils regardent les paroles. C'est comme pour une chanson de Dylan, quoi. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Et cette expression-là, qu'est-ce que c'était, etc. Enfin, encore aujourd'hui, les gens décortiquent American Pie de Don McLean. Il avait fait avant ça un autre album qui était passé un peu plus inaperçu, qui s'appelait Tapestry, qui est un album de, disons, de singer-songwriter, de chansons d'auteur excellents avec quelques protestants plus ou moins subtils. Celle-ci d'ailleurs est une chanson qu'il faut écouter de près pour voir ce qu'elle veut dire. Elle s'appelle General Store et en fait les paroles sont composées d'un dialogue imaginaire entre un mec bien ordinaire qui vient au General Store, tu vois, donc c'est un campagnard américain, un redneck qui vient et qui lit le journal dans la boutique et qui dit tiens, il y a eu un incendie, ah oui c'est bien triste, ah oui, tous ces gens brûlés vifs, et à la fin il se révèle qu'il dit ouais mais finalement cet incendie c'était très bien parce qu'il faut que ces gens-là apprennent quelle est leur place. Autrement dit, on sent que le mec a peut-être mis le feu lui-même, qu'il est peut-être un membre du Ku Klux Klan et que les Noirs, ben, s'ils brûlent, c'est très bien. Voilà, donc chanson à écouter attentivement et qui fait son commentaire, comment dire, le venin est dans la queue, comme on dit. Don McLean, il y avait pas mal de bons trucs sur cet album Tapestry, même si il est passé un peu inaperçu. À l'époque, il a été réédité parce que, à la suite du succès immense d'American Pie.
Good morning, Mrs. Campbell. Lovely day today. I heard about the fire. I wonder what the papers say. Let's see now. Give me 50 shotgun shells and 100 feet of rope. Just add that to my bill. Says here there ain't no hope. They all were burned alive. And 4 packs of cigarettes. No, I think I'll make it 5. I heard about the wedding. I'm so happy for the bride. Why, that firehouse looked mighty nice and the whole town swelled with pride. We've watched her grow to womanhood. She's found an upright man. She'll learn this life ain't easy. You do the best you can. No, no, my family ain't so good. My wife just had a spell. And I can't afford the medicine she needs to make her well. I've been laid off at that factory for 16 months or more. I came home last Wednesday evening. I found her lying on the floor. By now, Mrs. Campbell, say howdy to your son. You can tell him we'll go hunting when he gets a bigger gun. It was too bad about that fire, but don't you get me wrong. We've got to teach these people how to stay where they belong.
Absolument glaçant, le monologue du membre du Ku Klux Klan, probablement, hein, qui achète ses cartouches et sa corde au General Store. Don McLean sur l'album Tapestry. en 1969, si mes souvenirs sont... Non, 70, voilà. Eh bien, les bébés dinosaures, c'est terminé pour ce soir. On vous rappelle que les bébés dinosaures, c'est tous les dimanches soirs de 21h30 à 23h sur les 92.2 MHz de Radio-Canal Sud dans la région toulousaine, qu'on le trouve partout dans le monde sur www.canalsud.net et sur tous les bons sites d'accumulation de radios sur Internet, et qu'on nous retrouve aussi en rediffusion tous les lundis, 8 jours après, de 15h30 à 17h, et bien sûr sur notre page Facebook, mais aussi surtout sur le site de Canal Sud, l'ai-je déjà dit, www.canalsud.net, où vous pouvez trouver en MP3 les archives des émissions depuis un temps presque immémorial, bon, enfin depuis 2011 grosso modo, ou 2012, il y a quelques centaines là, donc il n'y a plus d'excuses si vous en avez manqué, et les bébés dinosaures c'est terminé, je suis sûr que si vous nous écoutez en rediffusion, ben vous ne m'entendez pas parce que j'ai dépassé de quelques minutes la durée impartie à ce programme qui devrait faire 90 minutes et qui approche des 94. C'est une honte. On se demande pourquoi il y a des gens qui parlent tout le temps pour ne rien dire sans jamais s'arrêter. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour les arrêter. Hein ? Ben, je sais pas, moi.